vous parler d'Europe.
European Union.
France Inter, le 18-20 spécial Europe à Bruxelles.
Ne dites surtout pas que la France préside l'Europe. Ne dites pas qu'elle est la patronne pour les 6 mois à venir. C'est le Conseil de l'Union européenne que la France va présider à partir du 1er janvier prochain. On vous expliquera dans le détail ce que ça veut dire. Sachez quand même que tournant oblige dans une Europe à 27. La dernière fois, c'était il y a 13 ans sous Nicolas Sarkozy. Ce Conseil de l'Union européenne qui sera donc présidé par nous, Emmanuel Macron en parle dès demain dans une conférence de presse. Ses priorités, on en connaît déjà un certain nombre. Le climat, bien sûr, et donc le pacte vert, l'autonomie stratégique, la régulation numérique. Il y a d'autres exemples, mais cette présidence est particulière à plus d'un titre. Il y a le Covid, dont la 5e vague traverse l'Europe et qui peut encore bouleverser les plans. Il y a l'Allemagne qui a changé aujourd'hui de chancelier. Il y a une élection présidentielle en France qui tombe pile au milieu de ces 6 mois. C'est tout cela qui va faire cette présidence et aussi la première heure de cette émission. L'Europe est vaste, elle est parfois compliquée, mais on a une bonne heure devant nous. Bonsoir.
Fabienne Saint-Est. Un jour dans le monde.
Et à mes côtés, dans ce magnifique studio du Parlement de Bruxelles, magnifique, où on voit passer ici et là les députés qui passent, alors un peu moins qu'à l'ordinaire peut-être, on est un peu toujours en période de Covid et puis il commence à se faire tard, mais quel joli studio au milieu duquel nous sommes installés. Je voudrais d'abord vous saluer, vous, rapidement, Angélique Boin, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous resterez à nos côtés pendant ces 2 heures, vous êtes la correspondante de France Inter ici à Bruxelles, et saluer surtout bien sûr notre premier invité, bonsoir Charles Michel.
Bonsoir.
Et merci beaucoup de nous accueillir, alors pas tout à fait chez vous, hein, puisque le Conseil de l'Europe que vous présidez est pas très loin d'ici, une petite dizaine de minutes à pied, on va le dire comme ça. Nous sommes au cœur du Parlement. Je disais qu'il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup de monde. C'est plutôt une bonne nouvelle. On en parlera de ce fameux Covid qui vide un petit peu votre Parlement comme le reste, de cette Europe particulière aujourd'hui même qui a changé de chancelier. Avant cela, et puisqu'on est là avant tout pour parler de présidence française, Charles Michel, est-ce qu'on peut évoquer cet éléphant qui sera forcément au milieu de la pièce pendant les 6 mois qui viennent ? Il y a une présidentielle française au milieu de ces 6 mois-là. Est-ce que c'est un handicap ? Est-ce qu'au contraire, c'est une manière d'avancer plus vite ? Est-ce que ça se gère différemment ? Comment ça va se passer ?
Moi, j'ai l'impression qu'on va rester concentré, on va rester extrêmement professionnel. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des élections dans un pays qui assume la présidence rotative. Et j'ai toute confiance parce que la France est un pays qui est très engagé sur le plan européen, qui a une bonne connaissance, une bonne compréhension des différents sujets qui sont à l'agenda. Donc je suis optimiste.
Vous savez ce qu'on dira, on dira qu'il porte avant tout son propre agenda et donc que la présidence du Conseil de l'Union, ça, c'est sa campagne en réalité.
Bah, c'est important, c'est d'être cohérent et nous voyons que depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron a été un président très engagé pour le projet européen et donc j'imagine que son action, campagne électorale ou pas, sera en cohérence avec les messages qu'il a développés les dernières années.
Vous allez le rencontrer d'ailleurs demain, vous êtes de la même famille politique, ça tout le monde le sait, c'est le jour de son premier discours sur le sujet, ce sera une conférence de presse en France. Est-ce que vous allez le mettre en garde contre le mélange des gens ou pas du tout ?
Je pense qu'il n'y a pas besoin de ce type de conseil, mais effectivement, demain encore, nous serons au travail pour peaufiner les agendas, pour peaufiner les thèmes, et nous voyons bien que c'est un moment important pour l'Union européenne, et je pense que chacun mesure bien les enjeux, une crise du Covid qui nous frappe, qui ébranle nos repères, l'importance de réaffirmer les valeurs fondamentales, et puis l'importance d'être engagé pour la prospérité, pour le développement économique, pour la cohésion sociale.
Avec une nouvelle tête aussi, et ça aussi c'est important, ça change la physionomie de l'Europe. La passation de pouvoir entre Angela Merkel et Olaf Scholz, c'était aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'on risque de manquer de locomotive ? Est-ce qu'elle va manquer, sincèrement, cette figure très très familière d'Angela Merkel ?
Il est certain qu'Angela Merkel a marqué de son empreinte l'action européenne, il n'y a pas de doute par rapport à cela. Mais il est certain aussi qu'il y a une coalition en Allemagne se met en place qui est très pro-européenne. Donc ça me rend optimiste, ça me rend positif. J'ai eu l'occasion de rencontrer longuement Olaf Scholz il y a quelques semaines ainsi que les autres représentants de la nouvelle coalition en Allemagne. Je le rentrerai à nouveau ce vendredi, ici à Bruxelles. Et je pense effectivement il est important que le couple franco-allemand soit pleinement opérationnel. Je suis aussi confiant par rapport à ce point, mais je n'oublie jamais comme président du Conseil européen que le couple franco-allemand, ça ne suffit pas. Il faut encore convaincre et engager l'ensemble des 27 partenaires et pas seulement deux pays.
Avant d'aller plus loin, Charles Michel, et pour tous les gens qui nous écoutent, et avant qu'on entre dans les dossiers, j'aimerais, Angélique Bouin, que vous nous racontiez tout simplement comment ça va se passer ces 6 mois, prendre la présidence quand on est la France, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors la France va présider le Conseil de l'Union Européenne. Le président Macron ne va pas présider ni diriger les sommets européens, ces réunions au niveau des chefs d'État et de gouvernement, ça c'est votre travail, monsieur le Président. Et le Conseil de l'Union Européenne, c'est l'institution qui réunit les 27 États membres au niveau des ministres et des ambassadeurs, qui amendent et approuvent chaque projet législatif. Ici à Bruxelles, eh bien, il y a en permanence des conseils des ministres, des transports, des finances, de la justice, et puis des réunions entre ambassadeurs que la France va donc présider pendant 6 mois. On y définit la position des États sur chaque sujet. La France va mener les débats, et puis le ministre concerné ou l'ambassadeur devra ensuite aller chercher un compromis ici avec les représentants, cette fois du Parlement, pour que la législation existe.
Et sinon, Angélique, quand on préside, c'est quoi l'avantage alors ?
Eh bien, on a la maîtrise de l'agenda. On propose les compromis. Il y a environ 250 textes législatifs en cours d'examen. En ce moment, la France va organiser et présider quelques 2000 réunions. Alors, quand on a la présidence, on a l'agenda. On peut faire avancer plus vite certains textes en mettant à l'ordre du jour des sujets que l'on veut voir aboutir. Ça accélère la recherche d'un compromis. À l'inverse, on peut on peut ne pas mettre au menu des textes dont on n'a pas très envie. Je caricature un peu, mais c'est là le principal pouvoir d'une présidence.
Et il y a le rayonnement aussi, ça compte ça ou pas ?
Ah oui, surtout quand on est un grand pays comme la France. Si son dirigeant comme Emmanuel Macron est pro-européen, il va organiser dans son pays des sommets dits informels entre chefs d'État et de gouvernement sur des dossiers qui lui sont chers. On pense à la défense, et puis eh bien, le président français va en profiter pour faire rayonner l'Europe à l'intérieur de la France avec plein d'événements.
Alors ça va durer 6 mois, peut-être un peu moins, on verra bien ce qui se passera pour ce qui concerne l'intérieur de la France. Charles Michel, l'agenda il est là, il y a beaucoup de sujets qui sont sur le tapis. Maintenant, on est aussi aux prises avec une 5e vague de Covid un peu partout en Europe. Le risque que ce soit le Covid qui dicte l'agenda finalement, comme ça a été un peu le cas quand même ces derniers mois, qu'on soit rattrapé par la patrouille en gros, c'est un risque bien réel.
Bon, mais il est certain que le Covid a eu un impact sur l'agenda européen et c'est bien normal, parce que c'était bien normal que nous tentions de coordonner l'action pour limiter les effets négatifs de ce virus, pour tenter de gérer ensemble la question des vaccins, pour montrer notre solidarité avec le reste du monde. Et on voit bien qu'à nouveau, il y a des préoccupations, il y a des inquiétudes. Dans une semaine, on aura un Conseil européen en personne à Bruxelles, et probablement le Covid sera à nouveau un thème important pour coordonner notre action. Mais le Covid ne nous a pas empêchés d'agir sur le plan économique. Au contraire, le Covid nous a poussé, par exemple, il y a un peu plus de 1 an, à adopter un budget très ambitieux, un plan de relance aussi pour garantir la cohésion européenne, pour soutenir le marché intérieur, pour déployer des investissements. Le Covid ne nous a pas empêchés donc d'agir pour le climat avec le Green Deal, le paquet Fit for 55, prêt pour 55%, qui sera justement un des thèmes à l'ordre du jour dans le cadre des travaux des prochains mois.
Alors c'est vrai qu'il y a eu des bouleversements. On a beaucoup dit que l'Europe avait mal démarré, qu'elle s'était rattrapée ensuite avec un certain nombre de mesures, mais on ne peut pas s'empêcher de penser avec cette 5e vague qu'à nouveau, on est dans le repli de chacun pour soi. À nouveau, on est dans un vrai nationalisme vaccinal. À nouveau, chacun s'interroge sur ses propres frontières. On est dans des montagnes russes en Europe avec cette histoire de Covid. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir à nos mauvais vieux premiers réflexes ?
Il est certain que quand le Covid nous a frappés pendant quelques semaines, il y a eu un réflexe national, il n'y a pas eu la compréhension immédiate que c'est ensemble qu'on pourra s'en sortir. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on a largement appris des erreurs du début, et on le voit bien avec cette vague qui nous frappe. Tous les États membres veulent concerter et coordonner, par exemple, la question de la troisième dose. Tous les États membres veulent, par exemple, coordonner la question de la mobilité intra-européenne pour que le plus possible, il y ait de la convergence dans les mesures qui sont prises. Tous les États membres veulent aussi se coordonner sur la mobilité en dehors de l'Union européenne. Et puis, nous voulons aussi regarder sur le plan économique quelles peuvent être les conséquences en fonction d'un impact plus ou moins important dans les prochaines semaines.
Mais il y a un problème avec la vaccination. Aujourd'hui, on a des pays comme la Bulgarie ou la Roumanie où un tiers des gens sont vaccinés. Comment est-ce que vous voulez maintenir la libre circulation à l'intérieur de l'Union avec ces vagues qui peut-être nous emmènent pour des années? Est-ce que vous êtes pour la vaccination obligatoire, par exemple, à l'échelle de l'Europe?
D'abord, le débat sur la vaccination obligatoire relève du débat national. Ça n'empêche pas que l'on puisse échanger, réfléchir ensemble sur le plan européen.
Mais quelle est la solution pour éviter que ces vagues...
Ce sera une décision nationale, c'est un premier élément. Deuxième élément, il est vrai que parce que nous avons décidé de commander des vaccins ensemble et d'avoir des priorités similaires dans les vaccinations, que l'Union européenne est une des régions du monde qui se porte le mieux en termes de vaccination. Mais il est vrai aussi, vous avez raison, que quelques pays européens ont plus de difficultés pour convaincre leurs citoyens de se faire vacciner. Et c'est donc important de travailler ensemble pour lutter contre la désinformation, pour faire en sorte que le maximum de personnes puissent être vaccinées. Et moi, je respecte le débat qui a démarré dans pas mal d'États membres sur la vaccination obligatoire. Et nous aurons certainement l'occasion la semaine prochaine d'entendre les différentes opinions sur le sujet. Mais c'est d'abord une responsabilité sur le plan national.
Si on vous pose la question à vous, Charles Michel, vous diriez oui, pourquoi pas, vaccination obligatoire,
D'abord, mon opinion personnelle n'est pas très importante, mais je ne veux pas donner l'impression de faire de la langue de bois. Et donc, il est certain que vous m'auriez posé la question il y a 2 ans, j'aurais radicalement dit non, ça n'est pas une bonne idée, ça n'est pas conforme avec mes principes. Aujourd'hui, j'entends bien le débat qui s'ouvre, mais je vois difficilement comment on met ça en pratique de manière opérationnelle. C'est une chose de dire, on fait la vaccination obligatoire, c'est encore autre chose de rendre ça praticable. Et je suis intéressé par entendre les différents arguments sur ce sujet.
Une dernière chose là-dessus, Charles Michel, le partage des vaccins, on a bien compris qu'à l'intérieur de l'Union, on avait fini par trouver un bon fonctionnement. On sait aussi qu'il y a un problème COVAX qui doit aider d'autres pays à avoir ce vaccin, mais on sait bien que ça marche très mollement et que énormément de pays dans le monde sont extrêmement mal vaccinés. Est-ce que vous diriez, vous, et est-ce que c'est peut-être à l'Europe de le demander, de le porter, qu'il faut ouvrir les brevets ?
Moi, je suis très pragmatique par rapport à cela. Et je pense que ce que nous faisons sur le plan européen est un exemple à suivre. Qu'avons-nous fait en quelques mois à peine ? Avec des pays africains, le Rwanda, le Sénégal, l'Afrique du Sud, on s'est mis à table avec les autorités gouvernementales, mais aussi avec les secteurs pharmaceutiques pour envisager l'ensemble de la question et pas seulement le débat idéologique sur faut-il libéraliser ou pas les brevets. On sait très bien que un vaccin, ce n'est pas une recette que l'on met sur Internet et demain dans votre cuisine vous produisez le vaccin. Il faut du transfert de technologie, il faut du transfert de know-how, il faut envisager les investissements, il faut prendre en compte l'ensemble de la chaîne afin de permettre la production de vaccins. J'étais il y a 2 jours au Sénégal, je visitais l'Institut Pasteur. Voilà un projet très concret où en quelques mois, c'est l'Union européenne qui a soutenu afin que très rapidement le Sénégal soit en mesure d'abord de faire ce qu'on appelle le fill and finish, c'est-à-dire la dernière phase avant la distribution des doses, et l'étape suivante sera de permettre au Sénégal, via l'Institut Pasteur, de pouvoir développer des capacités de production. Ça, c'est la bonne approche. Le reste, ce sont parfois des slogans que l'on entend en disant, en donnant l'impression qu'on libéralise les vaccins et tout est réglé demain. Ben, ça n'est pas juste. Par ailleurs, si nous faisions cela, en réalité, c'est des pays comme la Chine qui seraient en mesure très rapidement de pouvoir produire des vaccins. C'est pas des pays africains ou des pays en Amérique latine qui ont besoin que l'on envisage le partenariat global. Ce que l'on fait est concret, pratique et aura un effet significatif sur le moyen terme.
Une des autres leçons du Covid au fond, et on s'éloigne un peu du sujet, mais on y est vraiment, c'est la fameuse autonomie stratégique. C'est cette autonomie stratégique qui nous a permis effectivement d'avoir cette indépendance vaccinale dont vous parliez. Quand on voit que ça fonctionne, est-ce qu'on se dit mais il faut que cette porte soit ouverte, qu'elle soit ouverte définitivement désormais ? Est-ce que ça fonctionne pour d'autres choses ? Quelle est la mise en œuvre d'autres choses, de conserver cette autonomie stratégique pour l'énergie, pour tellement d'autres sujets.
Moi, je suis un fervent partisan de ce concept d'autonomie stratégique, de souveraineté stratégique. Ce qui compte, c'est la substance. Et je pense qu'il y a 2 piliers. Le premier pilier, c'est renforcer la robustesse économique et la cohésion sociale en Europe. C'est renforcer le marché intérieur. Par exemple, quand on décide ce budget européen, quand on met en place le fonds de relance, quand on décide d'investir ensemble avec les mêmes priorités, et donc de rembourser ensemble, c'est un acte d'autonomie stratégique net, clair, précis. Le deuxième pilier, c'est la sécurité et la défense. Et on le voit bien, on est confronté à des tensions grandissantes aux frontières de l'Europe, au sud, à l'est de l'Europe. La question c'est, veut-on subir ces tensions ou veut-on considérer que nous avons des intérêts à défendre ? Si on a des intérêts à défendre, on doit tenter d'avoir, pays européens, les 27, la même vision politique. On doit aussi tenter de voir comment on peut mieux coordonner nos capacités sécuritaires.
Tenter, comme vous dites, pour l'instant, on ne peut pas dire que ça fonctionne réellement.
Je ne partage pas votre point de vue. Je sais que c'est un lieu commun de considérer que ça ne fonctionne pas. En réalité, pas mal de progrès ont été réalisés. Je donne quelques exemples. Nous avons décidé de mettre en place un fonds européen de défense. Nous avons mis en place ce qu'on appelle la boussole stratégique qui est au cœur de nos discussions. On en parlera la semaine prochaine avec les chefs d'État et de gouvernement. Ce sera certainement un débat important l'année prochaine également. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'identifier les moyens, les capacités que l'on déploie. Exemple, mobiliser nos États membres avec l'impulsion de la Commission européenne pour soutenir la formation d'armées dans des pays qui ont des faiblesses sur le plan de leurs armées et donc des difficultés à maintenir la sécurité. C'est ce qu'on fait dans le Sahel, c'est ce qu'on a décidé de faire au Mozambique récemment. Autre exemple, quelles sont les capacités d'équipement que l'on peut mobiliser de manière plus interopérable entre pays européens. Et donc nous voulons faire cela afin de renforcer une capacité autonome, stratégique européenne. On veut le faire ça aussi avec l'OTAN. Et l'un n'exclut pas l'autre. Nous voulons être un allié solide, un allié loyal, et nous voulons identifier de quelle manière on peut aussi renforcer cette capacité avec l'OTAN.
Mais il y a quand même des pays membres à qui ça donne des boutons. Encore la souveraineté, l'autonomie, ça fait peur, qui se tournent toujours vers les États-Unis. Vous êtes optimiste, vous arrivez à les convaincre, vous pensez vraiment qu'on va faire un pas de géant là-dessus dans les prochaines années?
Quand vous utilisez l'expression « ça donne des boutons », c'était peut-être vrai autrefois, c'est de moins en moins le cas. Je donne un exemple, j'avais souhaité ouvrir un débat sans conclusion, pour avoir la liberté de ton à huis clos, en se regardant les yeux dans les yeux.
Car parfois, les conclusions à l'issue d'un sommet pour nos auditeurs vous engagent. Donc vous aviez
c'est quand il y a des conclusions, il y a parfois une bataille sur un mot, sur une virgule.
On y passe des heures,
et on
des
passe
nuits.
À côté de la grande orientation et du grand chemin. Et donc nous avons eu ce débat il y a quelques mois sous présidence slovène à Bordeaux. C'était un débat extrêmement utile parce qu'on a constaté qu'il y avait des orientations nettes qui se dégageaient avec ces consciences. C'est vrai, avec des intensités variables, avec des nuances entre nous, mais cette conscience tout de même que la grande orientation, c'est à la fois cette capacité d'agir ensemble sur le plan européen, mais aussi d'être un partenaire loyal dans le cadre de l'OTAN.
Mais ça, c'est des choses que les gens qui nous écoutent le voient-ils réellement, s'en rendent-ils réel compte? Les images que nous avons et qui nous viennent d'Europe et là tout récemment, ce sont des images de migrants qui se cognent la tête à la frontière de la Pologne, ce sont des images de ce type-là que l'Europe nous renvoie pour l'instant. C'est moins ce que vous êtes en train de nous décrire.
Nos citoyens européens voient aussi que depuis le traité de Rome, nous vivons en paix, en sécurité et en stabilité. Et nous voyons aussi que nous sommes très attractifs et nous voyons aussi que d'autres grandes régions du monde qui ont plus de difficultés que nous sur le plan des principes démocratiques, sur le plan de la cohésion sociale, des mécanismes de protection sociale, regardent l'Europe avec intérêt, parfois même avec envie. Et c'est une expérience depuis 2 ans et je voudrais partager cela avec vous. Moi, je suis chaque fois surpris, étonné de constater les questions qui me sont posées en Europe, parfois des déceptions, parfois un pessimisme, alors que quand on nous regarde depuis l'extérieur, en général, il y a plutôt une admiration pour la manière dont ce projet politique inédit, unique, qui conjugue à la fois le respect pour les souverainetés nationales et cette démocratie nationale, s'articule avec cette ambition européenne, avec cet intérêt européen, cette capacité de faire l'équilibre entre nos intérêts nationaux d'une part, mais aussi cette conscience que la coopération européenne donne une valeur ajoutée pour plus de stabilité, pour plus de prospérité. Et même ces images dont vous parlez, elles sont frappantes, elles sont douloureuses, de migrants qui viennent, parce qu'ils sont instrumentalisés par le Bélarus notamment, vers les frontières polonaises ou lituaniennes. Là aussi, c'est intéressant parce que nous avons réagi vite, ensemble et dans l'unité, et on a réussi à ne pas être déstabilisés par cette tentative d'intimidation de la part du Bélarus.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, dans cette fameuse crise des migrants par exemple, que le rôle de l'Europe en voyant ces gens se taper la tête contre la frontière polonaise, c'est de dire, bon alors on a bien compris qu'on était instrumentalisé par la Biélorussie, mais on ne peut pas les laisser, c'est une question humanitaire. Donc nous, l'Europe, ces corridors, nous allons les faire à ce moment-là. Cette réponse, on ne l'a pas entendue,
on
ne
l'a pas certainement, vu. Si, il y a certainement un engagement humanitaire, parce que les contacts immédiats qui ont été pris avec la Russie, avec les pays qui étaient utilisés ou qui participaient directement ou indirectement dans ce processus d'instrumentalisation de migrants, ont permis de déboucher sur des premiers résultats. Par exemple, il y a maintenant un engagement humanitaire au départ du Bélarus. Il y a maintenant des rapatriements pour ceux qui ne sont pas dans les conditions.
Mais il y a eu de mort.
C'est certain, mais il faut tout de même ne pas confondre les responsabilités. Il y a un régime cynique, autoritaire, qui a décidé d'utiliser la détresse humaine. C'est écœurant, c'est contraire à nos valeurs européennes. Il fallait donc à la fois protéger nos valeurs européennes et protéger nos frontières.
Merci beaucoup Charles Michel. Le temps est toujours très court et on a une deuxième partie d'émission à assurer, mais on vous remercie vraiment d'avoir participé à ce début, être avec nous ici en direct du Parlement européen, puisque les présidences sont tournantes en Europe, et bien les chaises le sont aussi dans Un jour dans le monde ce soir.
Merci à vous.
France Inter, le 18-20 spécial Europe à Bruxelles.
et en accueillant deux invités supplémentaires qui se saluent d'ailleurs avec Charles Michel au moment d'utiliser la même chaise. Bonsoir Stéphane Séjourné. Voilà, si vous vous approchez tout de suite et voilà, vous pouvez nous dire bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du groupe Renew. Merci beaucoup d'être avec nous au Parlement européen. C'est le troisième groupe en nombre. 23 Français sur 58 membres dans le groupe Renew. Vous avez, avant ça, dans votre autre vie, vous étiez conseiller d'Emmanuel Macron. Et Karima Deli est avec nous aussi. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes députée au Parlement depuis 2009 dans le groupe Les Verts. Et si on vous entend de loin, c'est parce que vous êtes à distance. Et pourquoi êtes-vous à distance, Karima Deli ? Car vous êtes cas contact. C'est vrai que le Covid n'est jamais très loin de nous, où qu'on soit et quoi que nous fassions. Mais c'est comme ça, on est ravis de vous entendre, en tout cas, et de vous avoir. On va aller faire un petit tour, si vous le voulez bien, tous les deux. D'abord, dans ces couloirs du Parlement qui est autour de nous. Angélique Bain, vous avez tout simplement tendu votre micro ici au sujet de la présidence française. Demandez aux gens ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils en attendaient. Voici ce que ça donne. On commence avec Rosa Thun, qui est polonaise.
Oui, elle est polonaise, ex-membre du PPE, c'est la droite européenne. Et elle vient de rejoindre le groupe centriste Renew.
Avec le discours et l'engagement de Macron, la France est de nouveau très présente dans la politique européenne. Et nous avons besoin vraiment tous d'une France dynamique, présente, innovative, audacieuse.
Voilà, Andreas Schwab, lui, est de la droite allemande, rapporteur du texte sur la régulation des géants du numérique, un texte très important pour Emmanuel Macron, que cet eurodéputé espère bien faire atterrir sous présidence française. Et ça, côté gouvernement français, on l'espère aussi, car une Europe plus forte face aux GAFAM, c'est politiquement, on va le dire, assez vendeur en pleine campagne électorale. Gare en revanche à l'autre gros paquet législatif qui est sur les rails, les textes climat qui nous mènent sur la voie de la transition écologique. Attention au risque gilet jaune, dit aussi Andreas Schwab, et à ce qui ici agace parfois un peu dans les couloirs quand on évoque le président Macron.
Ce qui me préoccupe, c'est un peu un hyperactivisme. En politique, il faut toujours trouver le juste milieu afin que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Bien sûr, il faut surmonter des obstacles, mais en ce moment, un peu moins d'activisme, un peu plus de réflexion pourrait nous aider.
Enfin, dans les rangs des Français, il y a l'opposition et une inquiétude assez forte exprimée cette fois par François-Xavier Bellamy, le chef de file des eurodéputés LR, qui reproche à Emmanuel Macron de ne pas avoir repoussé de 6 mois cette présidence de l'Union européenne.
Il est certain qu'Emmanuel Macron souhaite profiter de cette présidence pour en faire un exercice de communication personnelle. Je ne vois pas sinon ce qui aurait poussé le président de la République à maintenir ce calendrier, parce qu'il avait la possibilité de reporter, ne serait-ce que de 6 mois. S'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il espérait, c'est certain, profiter de cette fenêtre de tir pour sa communication personnelle à la veille du rendez-vous présidentiel.
Voilà, comme ça, les choses sont claires. Stéphane Séjourné, c'est intéressant parce que il y a une vraie attente de cette présidence française, mais les remarques sur l'hyperprésidence, sur l'instrumentalisation politique, vous n'allez pas y couper.
Ouais, après là, François-Xavier Bellamy fait quand même de la politique politicienne. Mais il est... qu'est-ce qu'on aurait dit ? D'ailleurs, il aurait été le premier à nous dire que c'était un scandale si la France passait à côté de cet événement européen, puisqu'on aura et on y viendra des choses à pousser. Et puis aussi, la responsabilité de la France était à ce moment-là d'exercer cette responsabilité de la présidence du Conseil. Et donc, il n'y avait objectivement aucun argument pour qu'on puisse le décaler. Et je pense que François-Xavier Bellamy aurait été le premier d'ailleurs à nous le reprocher.
Et en même temps, cette hyper-présidence, l'opportunité qu'il va y avoir derrière, enfin la conférence de presse de demain, encore une fois, là aussi, c'est un peu comme l'éléphant dans la pièce. On sent bien que c'est une forme d'entrée en campagne sur un thème européen qui est un thème cher à Emmanuel Macron.
On dit ça, mais le président de la République a toujours été engagé sur les questions européennes depuis la Sorbonne jusqu'aux élections européennes de 2019, où il s'est personnellement engagé dans la campagne. Les questions étaient de savoir justement jusqu'à où allait l'engagement du président. Je me rappelle à l'époque des arguments dans cette campagne européenne. Il s'est fortement engagé. Il se sera forcément, il y aura forcément un bilan européen. On a formulé du temps de la Sorbonne, je me rappelle, une quarantaine de propositions. Sur les 40 propositions, il y en a une vingtaine qui sont en cours ou déjà réalisées. Donc il y a un bilan européen à faire valoir. Et puis là, il y a une opportunité à saisir de la part des pro-européens qui constituent notre majorité pour faire avancer, et Charles Michel, tout à l'heure, vous l'a bien dit, les sujets, l'agenda politique européen. Et ça, il y aura évidemment cette opportunité. Et la France, ici, au Parlement européen, vous êtes en plein milieu du Parlement européen ici sur ce plateau. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir fait cette émission ici. Est attendu. attendu sur ces sujets-là et attendu sur l'accélération des calendriers.
Juste avant de donner la parole à Karim Adeli, il y a une chose qui m'a frappé. Moi, vous l'avez sûrement lu comme moi. Il y a beaucoup de rapports qui ont été écrits avant la présidence française. Il y a celui du comité de réflexion qui est dirigé par Thierry Chopin et qui a cette phrase assez terrible pour vous qui demande plus de concret, moins d'arrogance, qui dit même plus de Schuman, moins de Victor Hugo.
Vous savez, de toute façon, il y a la réalité de cet hémicycle et du Conseil européen. Vous êtes ici dans l'encre du compromis, du consensus. Mmh. Et de toute façon, le président de la République est ce qu'on appelle un honest broker ici. Et un personnage qui va faire les compromis, qui va faire les consensus et qui va parler aussi au nom des 27. Donc il n'y a pas d'arrogance possible si on veut être efficace. Et donc si on veut être efficace, il va falloir écouter la problématique des autres pour faire avancer les sujets. Et je pense que le président de la République sera très bon dans cet exercice-là, sans arrogance, mais avec de l'efficacité.
Karim Adeli, chez Les Verts, est-ce qu'on s'agace ou est-ce qu'on pousse en se disant après tout, dont acte puisque c'est là maintenant, ça peut être aussi une opportunité pour faire accélérer un certain nombre de choses, vous en êtes où?
Ben nous, on considère que la présidence française, ne pas avoir demandé le report, c'est un peu dommage, parce qu'au fait, on amoindrit un peu cette présidence, parce qu'elle est coupée en deux, vous voyez, parce qu'on attend justement la dite période de réserve, on ne sait pas quand, peut-être ce sera mi-mars 2022, alors que l'Union européenne doit avancer sur des sujets cruciaux et notamment le climat. Donc ce qu'il faut comprendre là, aux auditeurs, c'est qu'il ne faut pas que la présidence française de l'Union européenne se résume à la volonté d'un homme, Monsieur Macron, d'utiliser l'Europe comme un strapontin pour les présidentielles. Emmanuel Macron ne doit pas faire ce qu'il reproche aux autres, comme la Hongrie ou la Pologne. Rabaisser les enjeux européens pour régler un petit peu ces enjeux nationaux. L'Europe vaut mieux que ça. Mais je tiens à vous ramener à une réalité, parce que ça, c'est la réalité. Avec cette présidence, la présidence de l'Union européenne ne reviendra à la France que dans 13 ans. Vous vous rendez compte? 13 ans. Or, c'est maintenant qu'il faut relever tous les défis. Relever le défi du climat, pas dans 13 ans, maintenant. Il va falloir relever le défi de la réindustrialisation de l'Europe. Pas demain, pas dans 13 ans, maintenant. C'est maintenant qu'il faut bâtir l'Europe sociale, pas dans 13 ans. C'est maintenant que nous devons avoir une politique humaine, efficace vis-à-vis des exilés, pas dans 13 ans. Vous voyez, c'est une occasion, et moi je le dis de manière assez claire, et je connais bien Stéphane Séjourné, c'est que Monsieur Emmanuel Macron, qui souvent en France est considéré comme Jupiter, il n'y a pas de Jupiter en Europe. Ça ne marche pas ça peut marcher en France, mais en Europe, ça marche pas parce que ça fait pchit. Parce que c'est ça, l'Europe. Il faut vraiment pas faire d'arrogance et faire preuve d'humilité. Et on le voit bien sur tous les sujets. Il faut absolument s'entendre les uns avec les autres, etc. Et ne pas jouer d'arrogance. Parce que là, vous embarrassez un nombre de vos voisins qui, eux, vont surfer sur la vague. Et ça va favoriser les replis nationalistes.
Pas de Jupiter en Europe, Stéphane Séjourné, vous l'avez entendu, Karim Adeli.
Je suis d'accord avec Karim Adeli sur un point et en désaccord avec un autre. En accord, parce que je suis d'accord sur le momentum européen qu'il y a. On voit bien qu'il y a un alignement des planètes au niveau européen avec la nouvelle coalition allemande. Mm-hmm. Ici, il y a une volonté d'avancer très vite. La sortie du Covid a quand même rajouté de la volonté politique dans le système européen. Donc,
enfin, sauf
donc
si
il y a
on y
un
retrouve,
moment,
mais bon.
Il y a un moment politique, il y a un momentum en ce moment qui est favorable à toutes les réformes. D'ailleurs, avec Karim Adeli, on défendra à peu près les mêmes choses sur les questions de Green Deal. Et il y a des positions françaises qui sont historiques, qui datent d'ailleurs depuis Jacques Chirac, sur la taxe carbone aux frontières de l'Europe, sur un certain nombre de points qu'on défendra ensemble dans l'hémicycle européen. Donc là-dessus, je suis d'accord avec elle. Là où je suis moins d'accord avec elle, c'est que la présidentielle française ne doit pas effectivement être un élément de blocage, et il y aura pas d'éléments de blocage. Les équipes se sont mises en place au niveau de la représentation permanente ici qui a augmenté et qui seront les équipes relais pour appuyer la présidence française. Et il y aura une forme de continuité aussi, je l'espère, quoi qu'il arrive dans l'élection présidentielle. Tout ce qu'on souhaite, c'est que le président de la République soit efficace dans cette première partie de présidence et que, évidemment, moi, en tant que chef de la délégation, président de groupe Renew, je souhaite qu'il soit réélu et je souhaite aussi qu'il y ait un président français ou une présidente française pro-européenne à la fin. Donc j'ai pas trop d'inquiétude sur le fait qu'on y arrive et qu'on y arrive d'ailleurs collectivement avec les règles d'ailleurs que disait très justement Karima Deli sur le consensus.
Il faut quand même expliquer aux gens qui nous écoutent, Angélique, la France va pousser ses dossiers, c'est vrai, va essayer de les pousser au maximum, et son travail c'est surtout de pousser les dossiers de l'Europe. Ça veut dire, on le disait tout à l'heure, c'est un vrai travail de compromis. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il va falloir changer de casquette, voire avaler des couleuvres d'ailleurs?
Oui, les ministres vont changer de casquette. Ils ont l'habitude de défendre le point de vue de la France. Ça ne va pas être un exercice facile. Ils s'y préparent donc, certains depuis des semaines. Illustration, j'ai croisé au Parlement de Strasbourg fin novembre Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, venue avec 4 ou 5 de ses conseillers. Elle est allée rencontrer des parlementaires des différents groupes politiques pour échanger sur le paquet législatif sur le climat. Elle va aussi porter pour les 27 le projet de législation sur la déforestation importée, des textes sur l'énergie. Son cabas est plein, elle a enchaîné les rendez-vous.
On va par où là ?
Je ne sais pas, par là. Voilà.
Ok, on va vous suivre.
Voilà. On a même fait de l'interview, figurez-vous, en marchant, elle était tellement pressée.
La grosse différence quand on a la présidence, c'est qu'on est supposé organiser des débats et faire converger les points de vue. Puisque vous savez que le fonctionnement de nos institutions européennes, c'est un travail au consensus. On essaye au maximum d'aller au consensus. Pour aller au consensus, il faut entendre les préoccupations des uns et des autres et puis réussir à faire en sorte que tout le monde se retrouve sur un texte. Donc c'est un travail compliqué, mais c'est un travail passionnant.
Voilà, la ministre essoufflée mais enthousiaste et qui a de la chance de bien parler anglais, je peux vous dire que c'est mieux. Voilà, il y a quelques membres du gouvernement qui risquent de souffrir, Fabienne. J'ai croisé aussi Cédric Hall, secrétaire d'État au numérique à Bruxelles cette fois. Il participait récemment au conseil des 27 ministres qui ont adopté leur position commune sur les textes qui vont réguler les plateformes numériques. Conseil présidé jour-là par son homologue slovène, hein, puisque c'est la présidence slovène. Mais maintenant qu'on connaît sur ce sujet la position des 27 États membres, la discussion à 3, commission, parlement, conseil se fera sous présidence française dans des réunions appelées trilogues. Ce sera la France via son ambassadeur ou bien Cédrico lui-même qui portera la voix et donc le positionnement des 27 États. Et c'est un rôle assez nouveau.
On va jouer notre rôle qui est de les faire aboutir. Et donc on a été à l'initiative, on a beaucoup poussé les textes, on a porté des choses qui ont été intégrées. Maintenant on a le privilège d'être ceux qui peuvent réussir à finir l'accord et à les faire atterrir et à les faire transcrire dans la vie des gens. Donc c'est un autre rôle, mais qui n'est pas moins important.
Alors là, ce sera assez facile, car la régulation des plateformes, c'est un texte poussé par la France. Mais il arrive, Fabienne, qu'un pays qui a la présidence et à défendre un texte sur lequel il avait mis beaucoup de réserves. Mmh. Ce n'est pas un exercice facile. Il va falloir rester impartial.
Et parfois beaucoup de réserves et parfois, Karima Deli, beaucoup d'espoir. Vous parliez du pacte vert tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est beau à regarder en soi, mais la crise énergétique est passée par là, a refroidi un certain nombre de pays. Est-ce que ça risque d'être plus compliqué, malgré tout, à vendre cette fois ?
Bah oui, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, le pacte vert. Parce que, et là je suis totalement en désaccord avec Stéphane Séjourné, parce que nous n'avons pas les mêmes positions. Regardez la taxonomie. La taxonomie, la France dit le nucléaire doit être reconnu comme une énergie verte. Et bah donc, le gouvernement autrichien a demandé un avis juridique qui conclut que le nucléaire ne peut pas être inclus dans la taxonomie. Et donc, nous allons nous battre pour que le nucléaire ne soit pas considéré comme une énergie verte parce que ce n'est pas un principe de précaution. Donc, vous voyez déjà sur la taxonomie, ça va être une bataille. Deuxième chose, on parle de relance. Mais de quelle relance on parle ? Est-ce qu'on laisse en vie des industries mourantes d'hier alors qu'il faut faire naître l'industrie de demain qui permet de lutter contre le dérèglement climatique ? Et là, pareil, on voit que la France va rentrer dans des deals avec la Hongrie, la Pologne, etc. pour dire, eh ben écoutez, on va encore garder les énergies fossiles, le gaz, comme ça derrière, on dira, vous avez le temps. Mais là, ce n'est pas possible puisque la COP26, tout le monde a signé la sortie des énergies fossiles. On est dans un double discours, vous voyez. Et ça va être la permanence comme ça. C'est comme le glyphosate. Moi, je suis désolée, la relance du glyphosate, je peux vous le dire. Alors là, ça va être une vraie bataille. On peut pas dire, en France, on a le temps, et au niveau de l'Union européenne, de ne pas prendre des choses. Ce que je veux vous dire, je ne vais pas vous faire la liste, parce que c'est important, mais je pense que nous avons une occasion de dire, parce que, attention, hein, Monsieur Macron n'est pas élu, il y a d'autres candidats, et je pense notamment à mon candidat Yannick Jadot, parce que les gros enjeux climatiques
on imagine
se jouent
bien
là dans la période, et c'est maintenant. Non, mais je le dis, parce qu'après, on n'aura que nos yeux pour pleurer.
Ouais, et la question, ça va être aussi, est-ce que c'est une bataille politique de ce genre-là, précisément parce que nous sommes en campagne électorale, qu'une présidence française, et le risque, c'est précisément que ça se transforme en une bataille franco-française.
Et précisément, c'est ce qu'il faut pas faire quand j'entends évidemment Karim Adeli, et je souhaite pas évidemment.
Mais c'est exactement le risque. Ça s'appelle la politique aussi.
On ne fasse pas de l'élection présidentielle un enjeu européen, vu les enjeux qu'on a. On a fixé sur l'environnement des objectifs qui sont très radicaux. La neutralité carbone à 2050, la fin des ventes de voitures thermiques à 2035. À l'échelon d'une génération, la mienne, on aura connu la voiture thermique, mais on aura aussi connu la fin de la voiture thermique. Et les industries qu'on va devoir faire muter jusqu'à 2035 pour changer totalement notre modèle, il va falloir qu'on développe toute une législation en Europe, et c'est l'objectif qu'on a dans les...
Ces législations, elles sont en cours d'études. Ils sont en cours d'examen actuellement, et ça va continuer pendant les 6 mois de la présidence
française.
Exactement,
il y en a une cinquantaine de directives qui sont en préparation et qui expliquent comment on arrive, secteur par secteur, à ces objectifs. Donc vous voyez l'enjeu qu'on a de construire, et vous pouvez le multiplier sur tous les modèles. Le modèle environnemental, le modèle numérique... On parlera peut-être, mais le modèle numérique est important. On est en train de construire un modèle numérique très, très différent.
Le modèle numérique est beaucoup plus consensuel. Ça va être beaucoup plus facile à imaginer que le pacte vert.
Très consensuel, mais très différent du modèle chinois, très différent du modèle américain. Sur la question de l'état de droit, on a un modèle européen à faire valoir. Donc, on est en train de construire une réglementation européenne à 27 qui va nous engager sur les 30, 40 prochaines années.
Mais Stéphane Séjourné, qu'est-ce que vous poussez réellement si, au bout des 6 mois, vous vous dites, voilà, ça, on l'a obtenu. Qu'est-ce que vous poussez? Est-ce que ça veut dire, par exemple, que oui, il y a un casus belli sur la taxonomie, donc l'idée que nucléaire et gaz peuvent être sujets à financement vert puisqu'ils sont soit décarbonés, soit en transition? Est-ce que vous dites, oui, ça, c'est un dossier, on le pousse, on y va. Est-ce que ça en fait partie?
Il y a un paradoxe dans ce que disait Karim Adeli, c'est que, effectivement, c'est un consensus européen, et je ne vais pas vous dire l'inverse. C'est le fait de mettre le nucléaire dans la taxonomie et d'accepter pour que certains pays puissent utiliser le gaz comme une énergie de transition, c'est un compromis européen, parce qu'il n'y en a pas d'autre à ce stade. Au Conseil, au Parlement, on pourrait trouver un autre compromis, mais au Conseil, c'est pas le cas. Et donc, effectivement...
Alors, il faut faire attention, nous, Stéphane Séjourné. Pour l'instant, il n'y a pas
vas-y,
de consensus. Non, mais je pense qu'il faut arrêter de s'avancer hein, comme ça, de dire, voilà, on a l'avis du Conseil. Le Conseil n'a même pas encore statué sur la taxonomie. Donc, ne dites pas, il y a un consensus sur le gaz et le nucléaire, ce n'est pas vrai. On a vu que l'Allemagne, pour l'instant, vous allez voir que l'Allemagne, avec cette nouvelle coalition où il y a des Verts, sera plus compliquée. Les Autrichiens qui disent absolument non. Et vous savez que ce sont des pays sur lesquels, justement, cette question nucléaire va être en rupture. Donc, il ne faut pas dire, ça y est, c'est bouclé. Ce n'est pas vrai. Et ensuite, Stéphane Séjourné dit, il faut prendre tous les textes. Il y en a énormément de textes. Mais le but de tout le pacte vert, c'est pas juste de faire du greenwashing et de dire, on a réussi des petits textes à la marge. Non, ça enclenche une nouvelle industrie. Alors, je peux vous le dire, moi, je me connais très bien dans la sortie des véhicules thermiques. Là aussi, on a un problème. Le texte de la France, la loi climat, c'est 2040, mais les Allemands vont porter 2030. Vous voyez, ça va être un jeu de... le compromis au plus haut pour aussi accompagner cette nouvelle industrie. Ça, c'est gagnant pour le climat. Ça, c'est gagnant pour l'emploi. Et là où on va peut-être être sûrement d'accord, Stéphane Séjourné, c'est que nous poussons des ressources propres. Il faut que le budget européen soit à la hauteur de ce que nous demandons pour cette transition, mais une transition qui doit être juste, qui doit laisser personne au bord du chemin.
Justement, l'ajustement carbone aux frontières, c'est une des priorités, je crois, de la présidence Macron, qui sera sans doute présentée demain. Ça permet de financer... Est-ce que c'est ce qui vous met d'accord, ça, pour le coup?
Oui, mais quand je disais, on aura des sujets qu'on sera d'accord dans l'hémicycle, il y aura des sujets qu'on sera d'accord dans l'hémicycle. De par, historiquement, les positions françaises qu'on défend communément avec un certain nombre de groupes politiques ici, qui sont pas mon groupe politique, mais on a des convergences. Et puis... Évidemment, on a des grands combats à l'avenir. La taxe carbone aux frontières de l'Europe en est un. C'est aussi la fin d'une espèce d'ambiguïté et de naïveté sur les questions aussi commerciales qu'il y a derrière. Et donc, il faudra qu'on avance sur ces sujets-là.
SMIC européen, par exemple, est-ce que ça fait typiquement partie des choses? Vous voulez quitter ces 6 mois-là en disant il faut qu'on ait avancé sur ce dossier-là? C'est pas gagné d'avance non plus?
Non plus. Rien n'est gagné d'avance, je vous rassure, au niveau européen. Mais Le capital politique est mis dessus. Donc les ministres que vous avez interrogés travaillent déjà depuis quelques mois sur leur présidence, sur leur présidence des conseils des ministres européens. Ils ont déjà pris contact beaucoup avec leurs homologues européens. Ils essayent de trouver des éléments qui puissent des voies de passage, comme on dit. Mais est-ce comprendre la problématique de l'autre avant de pouvoir trouver une solution.
Mais est-ce qu'on dit qu'il y aura une signature? Il faut qu'il y ait une signature au bout de ces 6 mois. Et quelle est-elle, à part on a fait de notre mieux, on a essayé les compromis, on a entendu tout le monde, c'est quoi la signature?
Là, on parle beaucoup des sujets parlementaires. Mais il n'y aura pas que les sujets parlementaires en Europe. On voit bien qu'on est pris tout de suite par des sujets géopolitiques, bien des sûr. Sujets internationaux, des crises à gérer. Donc, vous dire ce que sera la signature...
L'Europe avance toujours dans les crises,
voilà,
c'est ce que vous êtes en train de dire.
Ce que sera l'ADN de cette présidence, je n'en sais rien. Je pense que personne ne le sait. Je pense, moi en tout cas j'en suis sûr, c'est qu'on a aussi internationalisé ce qu'on est en train de faire au niveau européen, à montrer aussi aux Européens qu'on défend un modèle particulier, qui n'est pas le modèle américain, russe, chinois, et que cette nouvelle réglementation qu'on va porter dans tous les secteurs qu'on vient d'évoquer sont là pour protéger les Européens et donnent une particularité à notre ambition politique et au projet politique qu'on porte ici.
On entendait aussi Rosa Thun dire qu'il faudrait qu'une Europe, elle a un grand espoir avec le président Macron, soit plus efficace, plus rapide. Quand on voit encore qu'on travaille beaucoup ici en silo, les ministres des Finances ne sont pas avec les ministres de l'Environnement pour parler taxonomie. Ici au Parlement, le paquet climat, il y a eu quand même des tas de palabres pour savoir, il y a eu tirage de couette, me disait un fonctionnaire, pour savoir qui prenait quel dossier, dans quel... Ça reste très lent. Est-ce que ça va changer un jour? Est-ce que ça fait partie de l'ambition d'un groupe politique comme le vôtre
En tout cas, ça fait partie de notre ambition au moment de l'élection européenne de 2019. On avait même proposé, et ce qui s'est fait, c'est constituer la conférence sur l'avenir de l'Europe qui doit discuter de ces questions-là faire des propositions.
On est très peu optimiste sur une décision très concrète pour la gouvernance de l'Europe.
Pour vos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien, il s'agit de réfléchir à comment on est plus efficace en Europe, comment on réagit plus vite. Les Américains, je m'en rappelle très bien, en 2006, avaient mis des taxes très rapidement sur l'acier au moment où la Chine sursubventionnait l'acier et faisait tomber toutes les industries d'acier en Europe. Nous, on a mis 9 mois à réagir. Les États-Unis ont mis 2 mois. Donc, c'est vrai que on a encore des marges de progression sur l'efficacité, sur la réactivité européenne. Et tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur notre organisation à décider par nous-mêmes dans le cadre de l'autonomie stratégique, de la souveraineté européenne. Là-dessus, il y a des marges de progression, je vous avoue, mais il y a une structure qui réfléchit à ces points-là et qui fera des propositions. Ça sera d'ailleurs, à mon avis, des points abordés pendant la présidence française.
Il nous reste une toute petite minute, Stéphane, cette journée, mais quand même, je vous mets ce chiffre en tête, c'est un sondage Via Voice pour Radio France qui a quelques jours seulement et qui dit 36% des Français ont confiance dans les institutions énormément de gens disent l'Europe ne peut pas changer nos vies. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut réussir à changer? C'est ces chiffres-là qu'il faut que vous arriviez à changer.
Je suis bien d'accord avec vous quand je vous dis qu'on est en train de mettre les réglementations qui vont conditionner les 40 prochaines années de nos vies. On ne s'en rend pas compte en France. Malheureusement, et vous n'êtes pas incriminé, mais d'un point de vue y compris médiatique, on a encore beaucoup de chaînes privées, y compris des fois la chaîne publique qui ne met pas assez en avant ce qui se fait ici. Moi, je prends souvent l'exemple de la sortie de l'hémicycle à Strasbourg. En 30 secondes,
même pas.
Souvent, je ne suis absolument pas interrogé. Je rentre à Paris, mes collègues allemands et néerlandais sont interrogés sur ce qu'ils ont voté, doivent s'expliquer à la télé, dans les médias, et ça, c'est de la démocratie européenne, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à impulser en France.
Ben écoutez, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas aujourd'hui. Elle n'est pas finie, cette émission spéciale en direct du Parlement de Bruxelles. Le téléphone sonne, ce sera juste après le journal de 19h. On parlera spécifiquement de ce sujet que tout le monde a tellement le mal à dénouer, celui des migrants, avec vos appels. À tout de suite.